masque, le gel et la plume. Bonjour à toutes et à tous, et voici toujours par le miracle du téléphone, et parce que rien ne saurait faire taire une émission de 65 ans d'âge, qui en a vu d'autres, voici donc le deuxième épisode de notre émission pour temps de confinement consacrée à la littérature, avec chacun chez soi et tous ensemble. Olivia de Lamberterie du L. Bonjour Olivia.
Bonjour
Jean-Claude Raspien-Jas de La Croix. Bonjour Jean-Claude. Et Arnaud Vivian du nouveau magazine littéraire de Transfuge et de Regard pour parler de livres papier ou numériques qu'on peut se procurer grâce notamment, je vous le dis, à la librairie.com qui fédère 2500 libraires français indépendants. Place aujourd'hui à l'Institut de Stephen King, Chanson bretonne de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Quatre amours de Christina Comencini, Dans les geôles de Sibérie de Johann Barbero, et un classique qui n'a jamais été plus moderne, La peste d'Albert Camus, sans oublier vos précieux conseils. Ici France Inter, les lecteurs parlent aux lecteurs. Et dans le courrier de la semaine, Pascal Le nous remercie pour notre présence fidèle et confinée en cette période anxiogène. Le bonheur de pouvoir te retrouver, cher masque, et en double dose à 11h et à 20h est immense. De Londres, où elle est aussi confinée, Cécile Moset nous écrit « Je craignais le silence du dimanche sur Inter, alors quel soulagement, quel oxygène, quel bonheur d'entendre le générique du masque et vos voix familières. Ce n'est qu'un début, continuez le débat. » Nicolas Mouton d'Argenteuil, qui juge le masque plus indispensable que jamais, préconise la lecture d'un livre qui vient de paraître, « J'ai tant vu le soleil » de l'historien Emmanuel de Varesquiel chez Gallimard, un livre sur Stendhal. Son Stendhal, ajoute Nicolas Mouton, est plein de charme et nous partageons en chemin ses émerveillements pour la belle Italie, la musique de Mozart et de Rossini, la peinture. Un livre plein de tact et d'élégance. Quant à Sylvie Campourcy, elle nous conseille, je ne sais pas si elle a tout à fait raison, Station 11 d'Emily St. John Mandel chez Payot Rivage. Très angoissant dans sa description d'une pandémie, dit Sylvie Campourcy, et de l'effondrement global de l'humanité. Ce livre est également passionnant par sa peinture d'un monde vidé de presque tous ses humains et rendu à la sauvagerie. Un livre dont la poésie oppressante ne laisse pas indemne, mais elle ajoute, elle a raison, à déconseiller aux plus angoissés du moment. Voilà pour le courrier de la semaine. Je vous rappelle que ce masque, ce gel et cette plume sont toujours hebdomadaires, toujours diffusés à 11h et à 20h, et que si vous avez des conseils de lecture, comme il y a eu pour le cinéma des conseils VOD ou DVD, n'hésitez pas à nous les envoyer et je me ferai le relais chaque dimanche de vos choix. Et on commence avec le maître roman sur l'épidémie que je vous ai proposé, j'ai pas dit ordonné, hein, proposé de relire. C'est La peste d'Albert Camus, un roman, c'est d'ailleurs le troisième plus grand succès des éditions Gallimard après Le Petit Prince et L'Étranger, qui a paru en 1947 et dont l'histoire se déroule à Oran dans les années 40, pendant une épidémie de peste apportée par les rats, qui frappe donc la ville et la coupe aussitôt du monde extérieur, avec dans le rôle du héros et narrateur le docteur Rieux, qui prend en main la souffrance des hommes. Une épidémie qui provoque des réactions évidemment contrastées. Pour le père Padeloup, par exemple, c'est un châtiment de Dieu. Pour Cottard, c'est l'occasion d'organiser un marché noir. Le journaliste Rambert, lui, essaie de quitter la ville. Le docteur Castel s'échine à trouver le vaccin contre la maladie, avec au cœur du roman cette scène où, très connue, cette d'anthologie où meurt un enfant et où Rieux dit « Je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés », lequel Rieux ajoute à propos des soignants, et j'ai envie d'ajouter d'hier et d'aujourd'hui, Il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela, il s'agit d'honnêteté. C'est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Voilà, cette peste de Camus, vous l'avez relue, Olivia ?
Oui, je l'ai relue, et avec beaucoup d'appréhension, parce que je me souviens très bien de ma première lecture. J'avais 16 ans, c'était l'été où j'allais rentrer en première, et j'avais été vraiment très bouleversée par cette histoire. Et je me demandais ce que j'allais éprouver pendant cette deuxième lecture, et je dois dire que j'en ai pleuré. J'ai trouvé que, évidemment, c'était vertigineux de la lire aujourd'hui. Je me souviens encore de la professeure de français qui nous avait expliqué ce qu'était une allégorie lorsqu'on l'avait étudiée à l'école, et que tout d'un coup, c'était plus une allégorie, mais c'était la réalité. J'ai trouvé que les résonances avec notre époque, même si évidemment le contexte a changé, était absolument fabuleuse. La description qu'il fait d'Oran au début du livre, en disant que les habitants étaient absorbés par leur travail et par eux-mêmes. Et il y a une phrase très belle où il dit qu'il existe des villes ou des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. Et je me disais que peut-être nous vivions dans un monde où nous n'avions plus le soupçon d'autre chose. Après, il raconte extrêmement bien le désarroi, le cafouillage, l'incrédulité. Et puis tout d'un coup, comment la grille de lecture du monde entre le bien et le mal ne fonctionne plus. Évidemment, la scène de la mort du fils du juge est vraiment
intolérable. Elle est terrible.
Elle est terrible. Et puis, quand je trouve qu'on n'en a pas la même lecture quand on a 16 ans et quand on en a 50 et qu'on a des enfants. Les personnages, moi, je ne me souvenais plus de ce personnage de grand qui cherche la phrase parfaite. Par une belle matinée de mai, une svelte amazone, montée sur une somptueuse jument à Lausanne, parcourait au milieu des fleurs les allées du bois. Cette phrase est très très belle. Et il y en a une autre.
Ça, elle ne m'avait pas totalement échappé, cette phrase-là.
Hein. Oui, mais oui, c'est pour ça que je te la cite, Jérôme. Et puis il y a une autre phrase qui est géniale. C'est lorsque Rieux pose la question à Tarou. Il lui dit « Avez-vous une idée du chemin qu'il fallait prendre pour arriver à la paix ?» Et Tarou lui répond « La sympathie ». Et j'ai trouvé que ce mot, qui était complètement désuet, parce qu'aujourd'hui on parle d'empathie tout le temps à tort et à travers, j'ai trouvé que ce mot de sympathie pouvait être un bon guide aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un livre merveilleux. Tous les personnages sont beaux. La mère du médecin, qui est presque taiseuse, qu'on n'entend jamais, mais dont on voit le regard, là aussi, ça donne envie de pleurer. Enfin, je trouve que c'est un livre parfait. Pour moi.
Il faut dire qu'à l'époque, on avait beaucoup dit, je me tourne aussi vers Arnaud et Jean-Claude, on avait beaucoup dit que cette peste était une métaphore de la peste brune et de l'époque que le monde et la France venaient de traverser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pense pas à cette peste brune, on pense évidemment à ce coronavirus qui est en train de faire des ravages. Arnaud ?
C'est tout à fait le paradoxe du livre. D'ailleurs, ce phénomène est assez intéressant. On se souvient qu'après les attentats, on avait fait la fête, si l'on peut dire, à Paris est une fête.
Absolument, oui.
Et donc là, le succès de la peste dans les circonstances que l'on sait, mais en même temps, le lire maintenant, c'est à peu près aussi pervers que d'offrir la nausée de Jean-Paul Sartre à une femme enceinte, à peu près.
Sauf que je n'ai pas dévoilé la fin, mais ça ne se termine pas si mal que ça.
Oui, mais enfin, voilà, il y a quelque chose là qui est un paradoxe, mais en même temps, je pensais, en pastichant Marx, il y a quasiment un caractère fétiche de la littérature qui apparaît avec ses succès de circonstances. Ce qui est vraiment intéressant, et effectivement, tu l'as dit, Jérôme, c'est que donc Camus voulait faire une allégorie, justement, sur la Seconde Guerre mondiale, sur le nazisme, sur la peste brune, et nous, en fait, nous renversons, puisque nous n'arrêtons pas, à propos du Covid-19, de parler de la guerre. Nous sommes en guerre, comme on l'a fait d'ailleurs au moment du terrorisme, de parler des gens qui sont en première ligne. Même j'ai entendu un ministre de l'Agriculture parler de l'armée des ombres pour aller cueillir des fraises. Alors là, franchement, être le gendarme des fraisiers, ça fait rêver. Et donc, y a aussi une chose qui est tout à fait frappante avec le roman de Camus, c'est qu'il avait trouvé, on le voit avec la profusion des journaux de confinement actuellement, il avait trouvé la forme idoine, c'est-à-dire la forme du journal. pour raconter une épidémie. Et alors, en cela, il n'était pas précurseur, puisque...
D'ailleurs, petite parenthèse, Arnaud, on ne découvre le narrateur qu'à la fin, en fait.
Oui.
Dans mon souvenir, parce que j'avoue, je ne l'ai pas relu, dans mon souvenir, je suis resté à ma lecture d'adolescent, j'en conviens, je n'avais pas très envie de m'y replonger. En revanche, j'ai lu, me suis plongé, c'est encore plus anxiogène d'une certaine manière, dans le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, qui est sans doute le premier livre sur une épidémie, le premier chef-d'œuvre. Et c'est pareil, on retrouve exactement les mêmes systèmes, hein, le confinement, le charlatanisme. On voit des choses, et c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais dans le livre de Camus, je me souviens, il y a ce docteur Castel qui cherche le vaccin et qui... est-ce que ce n'est pas une espèce de Raoult d'aujourd'hui ? On sent effectivement, on a le sentiment d'un système de correspondance dans mon souvenir, encore une fois, parce que ma lecture est lointaine et adolescente. Moi, j'étais un sartrien et je préférais avoir tort avec Sartre que raison avec Camus. Donc, j'avoue...
Mais c'était l'époque où il était de bon ton de se moquer beaucoup, beaucoup d'Albert Camus.
Oui, et il faut dire que lui-même, Camus disait que son roman était complètement raté, parlant de la peste. Hein.
Si vous permettez, la semaine dernière, on a parlé au masque d'un film qui s'appelle Contagion, qui est terrible et qui n'est effectivement pas forcément une bonne chose à conseiller aujourd'hui. Je trouve qu'il y a de très belles choses et qu'on ne sort pas, moi je l'ai relu pour l'émission, on n'en sort pas du tout désespéré. Je trouve qu'on sort au contraire avec plutôt de l'espoir et aussi une vision assez magnifique de l'humanité quand elle se bat contre le mal. Hein.
Je suis absolument d'accord, et en plus avec la vision que sans doute le monde d'après sera différent.
Et puis je rappelle à ceux qui évidemment l'auraient oublié qu'on parle d'Oran et on parle de l'Algérie, c'est-à-dire du pays natal d'Albert Camus. Jean-Claude.
Écoute, je te suis infiniment reconnaissant d'avoir mis ce livre au programme d'aujourd'hui parce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit les uns et les autres et les distances parfois que vous pouviez mettre. Pour moi, c'est le grand livre du coronavirus. C'est vraiment le livre à lire. C'est impressionnant de voir comme Camus colle à la réalité de ce qu'on est en train de traverser. Toutes les étapes progressives et sans retour que nous traversons, elles sont dans le livre. Ouais. Les premiers signes, la menace qui se prépare, l'anxiété générale, l'évidence irréfutable. Comment on passe progressivement entre le 6 avril et le 28 avril, du 16 avril au 28 avril, de la surprise à la panique. Comment on rentre dans l'épidémie, tout est dans ce livre. L'incrédulité, l'illusion de passer à travers, l'insouciance provocatrice, le confinement, l'isolement, la séparation, le mauvais rêve, puis la terrible réalité du vrai cauchemar, le manque de sérum, l'insuffisance et l'impuissance des mesures de protection, les hôpitaux débordés, les centres de quarantaine, l'exil chez soi, l'épaisseur du temps face à l'ennemi venu de l'extérieur, les enterrements hâtifs sans cérémonie. C'est vraiment le grand livre pour les soignants d'aujourd'hui. Le docteur Rieu est un magnifique personnage, une très grande figure de ce que sont aujourd'hui les soignants, ce qu'ils traversent. Il y a ce passage terrible au moment où Rieu dit, le narrateur dit, qu'il ne soigne plus, mais qu'il ne fait plus que diagnostiquer et accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parfois l'impression de ça, qu'on a l'impression qu'ils ne font plus que diagnostiquer et puis envoyer vers où c'est possible, quand c'est encore possible. Je le trouve très, très emblématique, le docteur Rieu, parce que traverse aujourd'hui les soignants, c'est-à-dire le côté exposé, mal protégé, démuni, et qui sont dans cette situation-là. Ce que j'aime évidemment énormément, c'est la grande qualité des interrogations morales de chaque personnage. Et Rieu, évidemment, le jésuite aussi, enfin, toutes les discussions, Cotard, je trouve ça très très fort. Moi, je trouve que c'est un livre immense, qu'il est indispensable vraiment de lire aujourd'hui. Pour ceux qui ne pourraient pas l'avoir en version papier, qui ne l'ont pas chez eux ou qui ne pourraient pas le commander, qu'il existe une version audio chez Gallimard, qui est lu magnifiquement par Christian Gonon, avec une économie de moyens, une sobriété absolument admirable, qui est conforme à l'esprit et au roman de Camus. Et je vous recommande vivement aussi la version audio.
Et il existe en version numérique aussi. Hein. Eh bien, n'ayez pas peur, je dis bien n'ayez pas peur, lisez La Peste d'Albert Camus, ou écoutez, comme disait Jean-Claude, La Peste d'Albert Camus. C'est disponible dans plein d'éditions. La référence étant évidemment celle de Folio. On change d'univers avec Chanson bretonne. Un livre bref et mélancolique, je dis bien mélancolique et pas nostalgique parce qu'il ne veut pas parler de nostalgie, de Jean-Marie Gustave Leclésio chez Gallimard. le prix Nobel de littérature, qui aura d'ailleurs 80 ans dans quelques jours, le 13 avril prochain, et dont je rappelle que le patronyme veut dire « les enclos » en breton, évoque ici la Bretagne de son enfance, quand la petite famille quittait Nice pour rejoindre plusieurs fois par an en deux chevaux Sainte-Marine dans le Finistère au début des années 50. Des souvenirs présentés dans deux contes, mais orchestrés comme des chansons, où il célèbre notamment la nature, la magie, les étés sur les bords de l'Audet. C'est donc le nouveau Le Clésio, plus bref, plus simple que les précédents. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de, on parlait évidemment de la pandémie, je rappelle aux oubliés que Le Clésio avait écrit un roman, c'était au milieu des années 90, s'appelait La Quarantaine, passionnant à relire, je l'ai fait récemment, où il décrivait justement les passagers d'un bateau contaminé par la variole, c'était à la fin du 19e siècle, et là encore, on trouvera dans ce livre beaucoup de choses assez utiles pour nos temps difficiles d'aujourd'hui. Je reviens à Chanson Bretonne, Olivia.
Moi, j'ai trouvé ce livre absolument splendide. J'ai l'impression qu'on trouve toute l'essence de ce qui fait la beauté et la grandeur de l'œuvre de Le Clésio. C'est-à-dire un petit garçon qui est ballotté entre l'île Maurice de son père, la Bretagne de ses ancêtres, la Nice de son enfance, et en même temps qui se retrouve étranger en France, puisqu'ils sont anglais, la famille est anglaise venant de l'île Maurice qui à l'époque n'existe pas en tant qu'île Maurice, et qui se retrouvent donc étrangers en France et ennemis puisqu'ils sont anglais. Et je trouve que c'est un livre sur un petit garçon exilé, sur un petit garçon en guerre, et il explique qu'il y a une très belle phrase, il dit que la guerre pour un enfant, c'est qu'il n'a rien choisi. Moi, j'ai été particulièrement touchée, évidemment, par le premier texte sur la Bretagne, parce que ce sont des paysages que j'adore, qui me sont très familiers. Et ce qui est très beau dans ce premier texte sur la Bretagne, c'est qu'il est vraiment comme un conte, avec des paysages et avec des petits personnages qu'on croirait vraiment sortis de contes de Perrault, notamment lorsqu'ils vont rencontrer leur cousin breton. Donc, il faut imaginer deux petits garçons de la ville, Le Clésio et son frère, et qui débarquent dans le village qui s'appelle Le Clésio, et qu'ils vont rencontrer des petits garçons avec des gros sabots et avec des cheveux qui les étonnent beaucoup, qui sont coupés un peu comme des petits Playmobil. Ils ont des coupes au bol et qui ressemblent à deux petits garçons du Moyen-Âge qui leur semblent très étrangers. La scène est très belle. C'est un livre très beau parce que ce ne sont pas des souvenirs, ce sont vraiment des sensations. Et ce sont les sensations de l'enfance, qui sont les sensations des vacances, comme si c'était les épiphanies d'une vie. Moi, j'ai trouvé ça absolument admirable. Et l'image de la mère de Le Clésio, qui doit traverser toute la France parce qu'elle doit fuir la Bretagne, avec ses deux enfants, donc un nouveau-né, avec ses parents qui sont en mauvaise santé et qui, en voiture, va traverser toute la France pour retrouver Nice, vraiment me semble absolument bouleversante. Plus le temps passe et plus j'aime l'écriture de Le Clésio.
Petite parenthèse personnelle, juste avant que Le Clésio reçoive le prix Nobel, j'étais allé lui rendre visite dans sa... Il a une petite maison là-bas, dans la baie de Noirmoutier, oui. Et on s'était beaucoup promené dans la lande et sur les rochers, et j'avais été très frappé de voir que cet homme qui toute sa vie, je dis bien toute sa vie, a été un nomade, est passé de pays en pays, y compris évidemment au Mexique, à quel point finalement il avait fini par trouver ses vraies racines, qui oui. étaient dans cette Bretagne granitique, pérousienne, comme ça, près de Douarnenez. Et finalement, ce grand blond nomade avait ses attaches dans cette région qu'on retrouve vraiment parfaitement, je trouve, dans Chanson Bretonne. Jean-Claude.
Écoutez, moi je l'ai lu, je suis tout à fait d'accord avec Olivia et avec toi, et moi je l'ai lu comme une sorte de cadastre de la disparition. C'est-à-dire que quand j'ai eu terminé le livre, je me suis demandé s'il ne fallait pas le reprendre par la fin. C'est-à-dire que ce qu'il évoque de terrible dans le Nice occupé, où il est précipité, et comme disait Olivia, les enfants ne choisissent pas d'être dans la guerre, il est précipité dans l'effroi de la guerre et il le vit à hauteur d'enfance, c'est-à-dire avec le détachement de l'ignorance, de la peur et de l'innocence. Et je me suis dit, surtout qu'il nous parle de ça après nous avoir promenés dans cette Bretagne rêvée. Et dans Nice occupée, ce qui est intéressant, ça, c'est les images dispersées, qui n'ont pas de continuité, qui n'ont pas de cohérence, Et en fait, il ne demeure dans son esprit que ce que les adultes en ont transmis. Et il essaie un peu de raccorder ce que les adultes ont raconté avec ce qu'il a, lui, comme image, mais elles sont très éparses. Et pourtant, il arrive à reconstituer des pans entiers de ces années sombres. La fameuse scène du bombardement dans la cour de l'immeuble de Nice, l'exode dans ce village, dont il dit d'ailleurs, loue au passage l'héroïsme sans faille et sans emphase des habitants qui accueillaient tous les égarés et les proscrits sans les trier et sans les... Et ce qui a quelque chose de très impressionnant, c'est le tourment incessant qui est encore chez le Clésio à 80 ans, c'est qu'il a connu la faim. Mmh. Et les pages sur la faim sont très impressionnantes parce qu'on sent qu'il ressent encore. Et ce qu'on voit dans la dernière partie, celle de Nice, c'est qu'il est vraiment enfant, c'est-à-dire il a entre 0 et 5-6 ans. C'est que quand on le lit, on assiste à la naissance du futur romancier. C'est-à-dire il fiche des images, il isole des détails, il construit des histoires plus vraies que le réel. D'ailleurs, il s'en explique à certains moments. Et après, moi, j'avais envie de revenir à la Bretagne et de finir par la Bretagne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un glaneur de son passé, on a l'impression qu'il cherche un peu partout tout ce qui a pu être là. Surtout que ce qui se passe dans la Bretagne où il est aujourd'hui, c'est qu'il a l'impression d'un trésor volé. C'est-à-dire que tout a disparu. Il dit que les choses sont là et elles n'existent plus. Il dit aussi que c'est la Bretagne, peut-être qu'on ne l'avait pas soupçonné jusque-là, que c'était l'endroit où il a eu ses émotions les plus fécondes, celles qui ont été les plus importantes de sa vie. Ce qui est très beau aussi, c'est vraiment l'évocation de la vie simple, de l'ordinaire des jours, enfin, l'eau qu'on va chercher au puits et qu'on ramène dans des brocs. C'est pas le premier à le faire, hein. Ça a été beaucoup fait. Et il y a pourtant là quelque chose d'original dans la façon dont il le traite, dans la beauté, l'émerveillement tout simple de ces gestes-là, le goût des crêpes, le cidre tiède, la tranquillité de la paix.
Le goût des crêpes.
Juste une dernière chose, je trouve que il évoque magnifiquement la noblesse, la dignité, la modestie de ce monde rural. Il dit que c'était un temps de courage et de force de caractère. Et juste un petit bémol, je ne comprends pas pourquoi il se défie de la nostalgie, alors que d'une certaine façon...
Il passe son temps à expliquer qu'il ne veut pas entendre parler de ce mot-là, alors qu'il est un peu libre quand même.
Tout le livre baigne de ça.
Arnaud, tu n'as pas toujours, dans mon souvenir, peut-être que je me suis trompé, été tendre pour les livres de Le Clésio au masque et la plume. Est-ce que tu reviens sur certaines de tes critiques avec Chanson bretonne?
C'est quand même une espèce de pagnolade, là, votre livre.
Laissez parler
Arnaud.
Tous les clichés sont là, c'est insupportable. Moi, je rêvais, en état de confinement, je rêvais d'un livre qui fasse sentir l'air iodé, les embruns, mais rien de tout ça. Des pages sur les vélos qui n'avaient pas de béquilles à l'époque. Des phrases, vous rendez compte, la guerre, comment en parler, écrit Le Clésio. Peut-être simplement dire que la guerre est la pire des choses qui peut arriver à un enfant, mais vous rendez compte, prix Nobel de littérature.
C'est vrai.
La vieillesse est un naufrage, mais maintenant on peut compléter, c'est un naufrage près des côtes bretonnes, hein, je crois.
Oh non !
Et franchement, heureusement, j'ai ri, je vais vous dire pourquoi, c'est que j'ai découvert, comme vous avez le PDF, j'ai découvert qu'il y avait une fonction audio, justement, qui faisait que mon ordinateur me lisait Le Clésio, et alors là, je peux vous dire que je me suis marré, parce que Le Clésio, avec la voix suintante de cyborg vocodeur de mon ordinateur, et c'est juste, mais parfait, et ça a été une tranche de rigolade à la maison, juste avec cette découverte technologique, c'est qu'on pouvait écouter un PDF en audio, qui fait que alors, sur tous les mots bretons, je vous assure que l'ordinateur, il est formidable. Non, et tout de suite, Le Clésio commence en disant « Les souvenirs sont ennuyeux ». Eh bien, je suis d'accord avec lui. J'ai l'impression que c'était Philippe Delerme avec plus de mots.
Oh non.
Je vois que le confinement n'a pas donné des vertus d'indulgence à notre ami Arnaud. Tu persistes, Stine.
Ah oui,
pour toi, il ne faut pas lire Chanson bretonne.
Il faut mieux éviter. On a déjà assez de problèmes d'ennui comme ça.
Est-ce que je peux ajouter une chose ?
Vas-y, Jean-Claude.
C'est quand, à la fin, moi j'ai été très touché par une chose. C'est quand il raconte comment ils sortent de Nice qui a été bombardée, qui est une ville qu'on ne reconnaît plus. Et combien il raconte, quand on voit aujourd'hui la figure comme ça, très paisible, et tu ne ricanes pas, Arnaud, la figure très paisible de Le Clésio, et combien il dit qu'il est sorti de l'enfance avec une très grande violence, qu'il était endurci, qu'il avait des colères indomptables. Et à un moment, il a cet aveu que je trouve très beau, où il dit j'étais, et je me reconnais aujourd'hui en eux, j'étais comme ces enfants de migrants, c'est-à-dire quand je les vois, je sais ce que c'est, j'ai eu faim, j'ai été en colère, j'ai été dans une sorte de rage.
À propos de migration, si vous voulez lire, d'ailleurs encore, toujours disponible, un très beau livre fondateur sur l'enfance de Leclésio, c'est son livre qui s'appelait L'Africain.
Magnifique.
Où il racontait comment, sur un bateau, il avait rejoint les côtes africaines pour retrouver son père, qui était un personnage tout à fait camusien, le père de Leclésio, qui était médecin de brousse en Afrique. Et là, on voit le tout jeune Jean-Marie Gustave Leclésio sortir de l'enfance et arriver sur ces côtes africaines.
Bon, d'ailleurs, dans ce livre,
s'il vous plaît, non, il y a d'autres livres à évoquer. Chanson bretonne, c'est Leclésio, et c'est chez Gallimard. Et pensez à regarder La Quarantaine aussi du même Leclésio sur une épidémie dans les geôles de Sibérie. C'est un récit absolument hallucinant, je dois avouer, et le premier livre de Johann Barbereau chez Stock. Voilà. L'histoire, elle est, si j'ose dire, terrible. On croirait presque à un thriller de Le Carré. Alors qu'il dirige, et c'est vrai, hein, l'alliance française d'Irkoutsk sur les bords du lac Baïkal, Johann Barbereau, qui est père d'une fillette de 5 ans, est tout d'un coup arrêté sans raison. Des flics cagoulés lui passent des menottes, l'embarquent, le frappent et l'accusent. C'est l'essentiel, donc, d'ailleurs, de l'accusation, l'accuse de fréquenter des sites pédopornographiques. Il va passer 61 jours dans les geôles de Sibérie, le titre. Et malgré le bracelet électronique qu'on va lui mettre, il va réussir à s'évader. Il se réfugie à l'ambassade de France de Moscou, où il reste cloîtré pendant un an, tandis que la justice russe le condamne par contumace à 15 ans, je dis bien 15 ans de camp à régime sévère, pour une faute évidemment qu'il n'a jamais commise et qui était entièrement montée par les services secrets russes. Finalement, on est à la fin de 2017, donc c'est tout récent, il s'enfuit par la frontière estonienne et il rejoint, on y revient, la Bretagne, et même d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le même port d'attache que Leclésio, c'est-à-dire la baie de Douarnenez. Un livre, entre parenthèses, où il en appelle à tous les écrivains qui l'ont aidé, de Villon à Tchekhov, et de Dostoïevski à Ludmila Ulitskaya, mais le récit est proprement stupéfiant dans les geôles de Sibérie. Arnaud.
Formidable. J'ai trouvé ce livre formidable. D'ailleurs, cette histoire m'avait totalement échappé. On comprend à la fin du livre que Élise Lucet lui a consacré un reportage dans Envoyé spécial. Donc, cette histoire est tout à fait sérieuse et tout ce qu'il raconte a été vérifié par ailleurs par un journaliste d'Envoyé spécial au cas où quelqu'un en douterait. Alors, lui, c'est vraiment un expert en confinement pour le coup. Hein. On comprend que deux mois dans les prisons de Sibérie, c'est autre chose que notre confinement à nous, là, pour le coup, avec des passages vraiment très beaux qui m'ont rappelé un grand livre, « Mes prisons » d'Edouard Limonov, qui vient juste de nous quitter, où il racontait des expériences.
Limonov, à qui Emmanuel Carrère avait consacré un très grand livre, je trouve.
Mm-hmm. Oui, alors là, c'est pareil, hein, profiter du confinement pour le télécharger et le lire en numérique. C'est un livre remarquable sur Limonov. Mais vraiment, oui, ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme, d'abord, se révèle un écrivain. Il raconte certes son histoire, mais il a une capacité d'écriture tout à fait remarquable qui fait que, par exemple, son évasion, tu parlais de John le Carré, là, pour le coup, on est vraiment dans un roman de John le Carré. C'est juste passionnant la manière dont il va s'évader. Sa pugnacité, son stoïcisme, son intelligence par rapport à ce qu'il subit. Encore une fois, il a été confiné de trois manières, parce qu'après, une fois libéré de prison, il est à son domicile avec un bracelet électronique, une période qui va durer assez longtemps, puis ensuite donc confiné comme une espèce de Julian Assange à l'ambassade de France à Moscou, jusqu'au moment où il prend donc la décision de s'enfuir. Et là, franchement, le stratagème qu'il utilise, la méthode qu'il utilise, c'est juste passionnant. Mais je trouve que le plus beau de ce livre, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est qu'on pourrait quand même imaginer qu'après une histoire pareille, l'auteur ressente une sorte de défiance, pour le dire le moins, envers la Russie. Or, pas du tout. C'est un grand livre sur la littérature russe.
C'est pour ça que j'ai cité les écrivains russes qu'il évoque. Hein. C'est qu'il le fait avec passion, hein, avec amour.
Absolument, absolument. Et c'est franchement, normalement, on éprouverait quelques ressentiments par rapport à un pays qui vous a fait ce qu'il vient de vous faire. Et là, pas du tout. Il y a au contraire quelque chose qui éclate d'un amour de la Russie qu'il ne reverra sans doute jamais pour les raisons que l'on comprend. Il ne peut plus y aller puisqu'il y est toujours condamné par ailleurs. Il y a cette grâce-là de rendre hommage en même temps à ce pays, de rendre hommage à cette nation, de rendre hommage surtout à la littérature russe, qui est tout à fait remarquable. Vraiment, c'est
un... Mais alors, du point de vue de l'enquête proprement dite, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi du jour au lendemain, on lui a foutu cette accusation sur le dos. Pourquoi tout d'un coup, lui, devient du jour au lendemain...
Il y a un personnage très mystérieux, c'est sa femme.
Sa femme, oui, bien sûr. Il y a une histoire à la Juliette Jean, on comprend au début. Oui. Hein, il fricote avec la femme du maire, ce qui n'était peut-être pas une
bonne idée. Alors, le maire qui est très anti-Poutine, vous pensez que c'est ça la filière?
Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est sa proximité avec le maire, ouais, c'est ça.
Je trouve que le mystère, le fait que ça ne soit pas tout à fait résolu, ça rend le livre encore plus romanesque, d'une certaine manière, et plus prodigieux, je trouve.
Encore plus le carré. Oui, Jean-Claude.
Tu nous as informé que c'était son premier livre. Franchement, on en souhaite d'autres. Hein. On a parlé de l'évasion, on a parlé de tous les aspects rocambolesques de ce livre. Franchement, d'entrée, les premières scènes où ils vont se plonger dans le lac Baïkal, dont il nous dit que c'est une patinoire l'hiver qui est grande comme la Belgique. Les scènes d'introduction de l'hiver, mais je veux dire, vous le ressentez physiquement, vous êtes obligé de mettre un pull quand vous le lisez, sur la férocité du froid, le froid extrême, la description qu'il fait de l'atmosphère où la vapeur d'eau se transforme en cristaux, mais à hauteur de regard, quoi. Déjà, les premières scènes sont extraordinairement évocatrices. Alors par ailleurs, on a dit que La Peste était le livre du coronavirus. Là, c'est le livre de la Russie de Poutine. Si vous voulez savoir ce qu'est la Russie de Poutine, ben là vous avez un mode d'emploi. C'est le vadémécum pour aller. D'ailleurs, il dit, parce qu'il a beaucoup d'humour par ailleurs au milieu de tout ça, il dit qu'il a fait donc 71 jours de prison. Et puis vous avez oublié les uns et les autres 21 jours d'hôpital psychiatrique derrière.
Absolument.
Et donc il explique qu'aller en prison aujourd'hui dans la Russie de Poutine, c'est un signe d'adoubement. Il devient un moujik comme les autres, mais alors lui, il a fait la totale, puisqu'il a fait aussi l'hôpital psychiatrique, donc il est vraiment russe, quoi. Le voilà vraiment intégré. C'est vraiment un truc d'intégration. Alors, il y a des scènes, moi, j'ai même à certains moments douté tellement c'était fort, c'est-à-dire que je doutais qu'il puisse comprendre à ce point l'argot des prisonniers, enfin, j'avais eu des petits doutes, mais c'était levé par, en effet, son périple. Et alors, il y a des choses dans le récit de sa séquestration qui sont absolument incroyable. C'est du pur Kafka, c'est le cauchemar en vrai. Ce qui est intéressant par rapport à la Russie de Poutine, c'est que Poutine a mis en œuvre quelque chose qui s'appelle le compromat, dont il parle très très bien. C'est la façon de détruire un individu méthodiquement, de façon arbitraire, de façon que l'individu lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive, de casser sa réputation, d'entraîner une procédure judiciaire et de tout faire pour le détruire. Et Poutine est devenu spécialiste de l'accusation de pédophilie. Il le fait avec beaucoup d'opposants. C'est pas le premier Barbero à tomber sur cette accusation. Et évidemment, celui qui tombe sous cette accusation ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Et puis, on a passé sous silence un petit peu dans ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est l'attitude quand même des autorités françaises, de l'ambassadeur français, du ministre des Affaires étrangères. Ouais. Il est quand même resté 14 mois. Et il se confondait avec les murs, c'est-à-dire qu'on savait qu'il était là, plus personne ne s'intéressait à lui. Et s'il n'avait pas pris son destin en main, il y serait encore. Il y a aussi, on essayait de chercher tout à l'heure pour quelles raisons il avait été pris, il y a aussi que les alliances françaises en Russie aujourd'hui sont très mal vues, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois bien intégrées parce qu'il y a une francophilie...
Oui, mais pas à ce point-là, Jean-Claude.
Non, mais il y a une francophilie russe, mais il dit également qu'il y a une paranoïa propre au régime de Poutine et que l'agressivité autocratique de Poutine se sert de ça pour aller chercher une cible idéale qui était lui, qui avait une vie sentimentale un petit peu agitée et qui en plus avait le malheur d'être...
Et une vie mondaine aussi, il raconte...
Oui, et une vie mondaine, bien sûr.
Enfin, une vie mondaine à Irkoutsk, c'est quand même très relatif.
Mais si, il parle très bien de ce qu'on appelle les Tousovska. Les Tousovska, c'est des cercles d'influence locaux, et il en parle très très bien. Il y a aussi une dimension locale dans sa chute. C'est-à-dire qu'il y a les méthodes de Poutine, mais il y a des méthodes locales.
Olivia.
Alors que ce n'est pas du tout le genre de livre que j'aime... je dois dire que je l'ai dévoré parce que c'est d'abord un roman russe et puis après, effectivement, c'est quand même quasiment le conte de Monte Cristo, l'évasion est démente.
Si on se résume, en fait, c'est un mix du conte de Monte Cristo, de John le Carré et de Kafka. Quoi.
Ce qui m'a frappé, à vrai dire, c'est la personnalité de cet homme.
Ah oui.
Parce que cet homme a une espèce de force intérieure qu'il appelle sa citadelle intérieure. qui est complètement étonnante, parce que dans ce livre, il n'y a jamais de plainte, il n'y a jamais de jugement sur ce qui l'entoure, et notamment sur les autres détenus avec lesquels il vit, avec lesquels il sympathise de manière, je trouve, presque tendre parfois. Et je ne sais pas si c'est un mot qu'il a inventé à propos de certains détenus, ils disent « ils mélancolisent ». Et ce qu'il y a de plus beau dans ce livre, et là j'en ai pleuré aussi, alors je pleure tout le temps aussi en ce moment sans doute, mais c'est le séjour en hôpital psychiatrique.
Terrible.
Tout d'un coup, il se retrouve au milieu de misérables, au milieu d'orphelins. Il y a des enfants, ils ont 14 ans, il y a des nains. Et au milieu de ces fous-là, arrive un jour un inconnu qui est tout crotté, qui est vraiment dans un état désespérant. Et il le regarde, il est intrigué par ses chaussures, et il va découvrir que cet homme porte deux chaussures gauches. Et il décrit ses chaussures, il dit c'est beau et pathétique comme un Van Gogh, et ça pourrait être ridicule. Et ben non, tout d'un coup, vous avez l'impression que vous avez le tableau de Van Gogh devant vos yeux. Et puis après, l'autre chose mystérieuse, mais ça vraiment, je n'ai pas la clé, je ne sais pas si vous l'avez, c'est l'épouse. Est-ce que c'est elle qui l'a trahi ? On ne sait pas, c'est une Russe très curieuse. J'ai cherché des photos sur Internet, j'ai trouvé des photos d'elle. C'est une très belle femme.
Et puis, c'est toi qui es curieuse.
Il est accusé de pédophilie sur sa propre fille. Et il n'y a aucun sentimentalisme dans ce livre, juste parfois les paroles de sa petite fille qui reviennent comme une sorte de ritournelle.
Et oui, mais là,
il est où mon papa ? Il est où mon papa ?
C'est pareil, il ne se plaint pas non plus. C'est ça qui est aussi qui fait toute la beauté de ce livre, c'est qu'il ne se plaint pas ni de son épouse, ni de quoi que ce soit, ni de l'injustice, ni du pouvoir russe. Il ne se plaint jamais.
Dans les geôles de Sibérie, c'est chez Stock et c'est signé d'un auteur dont je rappelle qu'il est jeune, c'est Johann Barbero. Je rappelle à ceux qui nous prendraient en cours de route que vous écoutez et peut-être que vous l'entendez à certains sons inhabituels, que vous écoutez le Masque et la Plume, un Masque et la Plume confiné, un Masque et la Plume téléphonique, un Masque et la Plume parfois d'une qualité auditive incertaine, mais d'une amitié en tout cas obstinée vis-à-vis de nos auditeurs et de nos fidèles auditeurs. Quatre amours, le roman de l'italienne Cristina Comencini, traduit de l'italien par Dominique Vitoz, et c'est toujours chez Stock, Cristina Comencini, à qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, les uns et les autres, à qui l'on doit récemment une très belle lettre adressée à ses chers cousins français sur le confinement, qu'elle appelle le moment, qu'elle appelle l'épreuve de la vérité. Nous sommes tous appelés à nous inventer, écrit-elle, une nouvelle vie, à nous sentir proches, même si nous sommes éloignés, à régler nos comptes avec un sentiment que nous évitons à tout prix, deux points, l'ennui. Cette lettre, elle est intégrale, on la trouve partout, elle est longue, encore une fois adressée à ses chers cousins français, et moi je la trouve d'une lucidité et d'une émotion très forte et aussi très, très utile. Quatre amours, ce sont deux couples inséparables dont, à l'approche de la soixantaine, les mariages tout d'un coup explosent et même implosent, et qui se demandent comment survivre à la séparation, comment appréhender soudain la liberté de la solitude. On pense d'ailleurs parfois, je trouve, au cinéma de son père, Luigi Comencini, en lisant ce livre, où un personnage dit qu'il n'y a rien de plus incongru et antimoderne qu'aimer une seule personne toute sa vie. Mais, ajoute-t-elle en substance, il est très difficile de s'affranchir de celle ou celui avec qui on a passé 25 ans. Olivia, est-ce que tu as été émue par ces quatre amours ?
Très. J'ai trouvé que c'était un livre très mélancolique et très subtil sur le couple, qui est une variation très profonde sur cette boutade de Sacha Guitry. Un couple, c'est de devenir un, mais lequel ? La question qu'elle pose au travers de ces quatre personnalités, de ces deux couples, c'est comment on peut construire un nous en restant soi-même. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les réponses ne sont pas du tout clivées selon les sexes, c'est-à-dire des femmes qui trouveraient l'extase, évidemment, dans la cuisine et dans les soins aux enfants, et des hommes qui trouveraient l'extase en dehors du foyer. C'est au contraire, un livre très fin qui raconte la lutte de pouvoir qu'il existe toujours dans un couple, même dans les couples très réussis ou les plus solidaires. Il y a une lutte de pouvoir entre l'homme et la femme, évidemment, mais il y a une lutte de pouvoir entre soi et soi. Comment on est partagé entre l'envie d'aimer à fond et la terreur de succomber à cet amour. Je trouve que c'est ça qu'elle raconte. Elle le fait de manière très belle en interrogeant aussi, et c'est un sujet qui est peu traité dans la littérature, qu'est-ce que c'est que l'intimité, l'intimité d'un couple? Qu'est-ce que c'est que de partager la vie de quelqu'un? Elle interroge bien, je trouve, cette intimité-là. Et il y a une très belle métaphore à la fin, qui serait en fait la fin d'un modèle de vie italien. Il y a une femme qui est décoratrice et elle imagine un appartement avec plein de chambres pour les enfants, pour les parents, pour la grand-mère qui serait revenue vivre avec la famille, avec des lits de toutes les tailles, avec des casseroles de toutes les tailles. Et puis elle comprend que cette pièce se trouve dans un musée ethnographique à côté d'une grotte de Néandertal et que tout ça n'existe plus. Voilà, c'est un livre qui dit que le couple aujourd'hui est complètement à réinventer. Et du coup, c'est un livre évidemment passionnant.
Arnaud, toi qui te méfies parfois un peu des sentiments, est-ce que tu as été touché par ceux de Christina Comencini ?
Alors, elle parle vraiment d'une réalité sociologique que je peux observer autour de moi. Ce sont des couples qui vivent ensemble depuis très longtemps, qui ont eu des enfants, qui les ont élevés et qui, une fois que les enfants sont partis du nid, décident de rompre. Et on ne sait pas exactement pourquoi. À dire vrai, ça surprend tout le monde dans leur entourage. Ils rompent de manière comme ça, soudaine, tout à trac, on a l'impression. Et c'est exactement de ça dont elle parle dans ce livre, qui a, alors, au moment où heureusement, la polémique s'est un peu éteinte vu les événements, mais on était en plein dans la polémique du female gaze et du male gaze, hein, le regard féminin, le regard masculin. Là, elle dit elle-même qu'elle utilise deux écritures, une écriture féminine et une écriture masculine, pour parler, puisque chaque personnage parle de lui-même, hein, à la première personne, raconte son histoire à la première personne. Il y a un côté choral, en tout cas quatuor, évidemment, dans le mélange comme ça des voix à la fois féminines et masculines. Il y a quelque chose qui se passe, on a les deux visions finalement, celle de l'homme, celle de la femme, de chaque côté de ces deux couples. Et il y a un tressage comme ça. Alors, ça m'a fait penser à un film de Guy Debord qui s'appelait Critique de la séparation, et j'ai l'impression que finalement, on ne sait pas trop exactement ce que Christina Comencini en pense finalement, hein, mais on sent qu'il y a quand même une pointe de critique par rapport à cette idée de la séparation, par le fait qu'il y a une phrase qui je trouve très forte, mais dont je ne suis pas sûr en revanche qu'elle soit très juste. C'est un peu ça qui me gênerait peut-être dans ce livre. Qu'est-ce qui nous assure que la vie que nous pensions être la nôtre l'a vraiment été, restée seule et l'unique garantie de vérité. Je ne suis pas sûr que ça soit ça exactement le sens profond de nos existences, mais voilà, c'est cette thèse.
Mais là, mais il y a quelqu'un qui le contredit très vite, hein, cette phrase, Arnaud, si je me souviens bien. Il y a quelqu'un qui dit « je n'ai pas besoin d'être seule pour être libre ».
Chacun des personnages a sa conception finalement des choses,
mais c'est ça
et de la liberté et de l'amour, avec cette idée finalement qu'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a une espèce de maelstrom temporel finalement dans nos existences. Et par ailleurs, tu parlais du père de Christina Comencini, donc le cinéaste.
Luigi, oui.
Voilà, Luigi, ce qu'elle en dit est terrible. Hein. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est...
Horrible.
Véritable histoire, donc le père qui parle alors qu'elle a 12 ans, je crois, et ouais, qui ne lui donne plus de nouvelles, et elle n'a de nouvelles que lorsqu'il meurt à Paris, et
tout
elle
seul
est obligée d'aller reconnaître sa dépouille alors qu'elle ne l'a pas vue depuis
mais,
60 ans, 40
mais
ans.
Mais moi, je parlais du cinéma de Comencini, je ne parlais pas de l'homme. Jean-Claude.
Ce que vient de dire Arnaud me fait penser à la question que je crois centrale dans le livre. À un moment, elle dit « Pourquoi à un certain moment ne supporte-t-on plus ce qu'on a construit ?» Et je pense que c'est cette question en réalité qui irrigue le livre. Moi, je ne l'ai pas lu comme vous. J'ai vu le roman de couples séparés, de familles recomposées, de cette solitude grandissante qui semble être, en tout cas c'est ce qu'elle dit, la condition des temps actuels. Et moi, c'est ça que j'ai vu. Et c'est pas la vision que développait Olivia, ni même celle d'Arnaud. Et moi, je dois vous dire qu'au début, j'étais un petit peu perdu avec les quatre personnages. Ils sont pourtant que quatre. J'ai été obligé de me faire un petit tableau parce que je m'y perdais là.
Il s'est fait un petit tableau.
Et ne vous moquez pas de mes limites. Je suis en train de les avouer. Alors soyez gentils, soyez indulgents. Soyez indulgents. Ah oui, mais alors précisément, tu as tort d'appuyer là-dessus parce que précisément, ce qui m'a un petit peu gêné dans ce livre, c'est que j'y trouve pas le souffle qu'il y a dans les romans russes. Vous m'excuserez. Par exemple, vous avez insisté sur ce qu'elle dit. en préambule écriture féminine, écriture masculine, ben pour moi ça s'est résumé à son préambule, c'est-à-dire que je le retrouve pas vraiment ensuite dans le style du livre. J'ai trouvé quelques faiblesses, mais ça avait été déjà le cas avec son livre précédent. Et j'ai, à l'occasion de ce livre, si je peux me permettre, et comme on est en temps de confinement, les écrivains pourront remettre sur le métier. Moi, j'ai une supplique à adresser aux écrivains aujourd'hui. Arrêtez de faire vomir vos personnages dès qu'ils ont une petite contrariété. Moi, j'en ai marre de lire ça dans les romans contemporains. Dès qu'un personnage a une contrariété, il s'en va vomir. Je suis désolé, moi, je suis entouré de gens qui peuvent avoir des contrariétés. Je les vois pas vomir à tous les coins de rue. Non. Et puis, pareil, arrêtez de les faire rire à tout propos. Je veux dire, c'est bien de rire de temps en temps. Non, j'exagère pas. C'est une maladie, ça, en ce moment, dans les romans. Donc, vous arrêtez de les faire vomir. Vous arrêtez de les faire rire tout le temps. Voilà.
Arrêtez. Ça, c'est un petit conseil aussi aux écrivains, arrêtez tous ces journaux du confinement que j'ai du mal parfois à supporter.
Alors, si je devais résumer ce que je pense de ce livre, c'est une bluette. Alors, je vous donne la définition pour pas que vous soyez. Ah, attends, qu'est-ce qu'une bluette ? La définition exacte est celle-ci : œuvre légère et sans prétention, empreinte de sentimentalisme. C'est une bluette. Si vous voulez, ce livre, pour moi, le goût, ce livre a pour moi le goût d'une coupe de champagne sur une terrasse romaine.
Ah, j'adore ça.
Ça tire parfois vers le mousseux, mais ça reste du champagne, mais c'est très rafraîchissant. Et entre nous, aujourd'hui, avoir des nouvelles de l'Italie comme ça, c'est quand même très agréable et ça n'a pas de prix.
Quatre amours, c'est Christina Comencini, c'est chez Stock. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai inscrit également l'Institut, le nouveau roman et nouveau succès, énorme succès de Stephen King, traduit chez Albin Michel par Jean Hesch. 600 pages de confinement dans un endroit affreux, un institut sans fenêtre. C'est là que des inconnus conduisent le petit Luc Ellis, 12 ans, après avoir tué ses parents. Voilà, tout simplement, un institut plein d'autres enfants capturés et logés soit à l'avant, soit à l'arrière. Des enfants qui ont tous des dons d'ailleurs singuliers, télékinésie, télépathie, et sur lesquels les geôliers pratiquent des expériences. Moi, je trouve que jamais King n'a mieux mérité son surnom de maître de l'horreur qu'avec cet institut. Qui l'a lu, Arnaud, tu l'as lu ?
Oui, j'ai lu les 600 pages. J'ai terminé hier. J'ai l'impression de m'être avalé 12 cheeseburgers avec C'est vraiment de la junk littérature. Comme on parle de junk food, c'est exactement la même chose. Celui-là est plutôt bien torché, je dois dire, c'est difficile, mais en même temps, comment dire, vous savez, dès l'Antiquité, on reprochait à Euripide d'utiliser des enfants sur scène pour émouvoir à bon compte le spectateur. Alors là, évidemment, il y va fort. C'est-à-dire, le principal du livre, ce sont des enfants qui sont torturés par des apprentis Mengele dans un institut. Alors, il n'est pas sans fenêtre, cet institut. Il y a un terrain de jeu.
Non, c'est la chambre du petit Luc qui est sans fenêtre.
Oui, la chambre
du petit Luc.
Il y a un trampoline. Il y a de quoi, entre guillemets, s'amuser. Et heureusement, parce qu'on leur fait donc passer des tests absolument horribles avec des capots. C'est vraiment l'idée d'un univers concentrationnel, évidemment, que décrit King. Je suis allé jusqu'au bout parce que je voulais essayer de voir s'il y avait une morale à cette histoire. Je n'en suis pas tout à fait certain pour avoir terminé. C'est très étrange. Alors, tout est très long, tout est plus fort, plus ramassé. Mais voilà, ça s'étire comme un vieux chewing-gum. Et en même temps, il y a quand même effectivement quelque chose d'assez fort, ne serait-ce parce que le personnage principal, Luc, donc, qui est un petit génie, à 12 ans, il était admis dans deux grandes universités américaines. Il a un QI dément. À 12 ans, avant l'examen pour rentrer à l'université, il est en train de lire Le Festin nu de William Burroughs. Il a lu tous les Cormac McCarthy. Enfin, vraiment, un petit génie. C'est, d'ailleurs, c'est ce qui va le sauver. C'est son intelligence incroyable qui va le sauver. Il y a quelque chose de très politique dans le livre. Il est question de surendettement. Il est question un peu de Trump, pour en dire du mal, au passage.
Ah bah ça, c'est sa bête noire, Stephen King.
Oui,
il faut savoir.
Mais en même temps, pour dire du bien d'Hillary Clinton... Ça paraît un peu farfelu, mais bon.
Bon, Olivia.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant d'arriver au hamburger, Arnaud, il y a une grande entrée avec beaucoup de nuggets. Parce que il y a 80 premières pages qui n'ont rien à voir avec l'Institut.
Ouais.
Moi, ça m'a fait penser à ce que Philippe Génada dit du Club des Cinq. Il dit qu'aujourd'hui, c'est plus lisible parce qu'avant que les Clubs des Cinq partent en expédition, pendant 80 pages, ils préparent le sac à dos. Et bien là, c'est exactement le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il écrit vraiment au fil de la plume, en prenant son temps. T'as 80 premières pages qui n'ont rien à voir avec la suite. Alors, comme je n'ai pas été jusqu'à la fin, Tu me diras, Arnaud, si on retrouve ces 80 pages.
Oui, bien sûr, quand même, oui. On les retrouve à la fin.
Et après, moi, je dois dire que j'ai été très happée quand on rentre dans l'Institut. Ça m'a fait penser à un de mes livres préférés au monde, qui est le livre d'Ishiguro, qui s'appelle « Auprès de moi, toujours ». Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire pendant le confinement, qui était cette espèce de collège avec des enfants, justement.
J'espère que ce confinement va durer très longtemps, vu tout ce qu'on a à lire.
Oui, puis attendez la liste du prochain masque. Jean-Claude, pardon de vous précipiter les uns et les autres.
Moi, c'est pareil, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, parce que la semaine a été un petit peu compliquée. Moi, ce que j'ai aimé, en tout cas dans les débuts de ce livre, c'est une sorte de superbe machine romanesque où tout s'enclenche en douceur, avec des petits éléments inquiétants qui détraquent par petites touches la narration. Il y a toujours un petit avertissement caché au lecteur et pourtant il se fait surprendre à chaque fois. Désolé, à un moment, j'avais l'impression de ne pas lire un livre, mais de regarder un joueur de bonneteau.
L'Institut, c'est Stephen King et c'est chez Albin Michel. Le temps est venu de vos conseils dont nos auditeurs ont besoin. On commence avec celui ou ceux d'Olivia.
Les étés anglais de Elizabeth Jane Howard. C'est une écrivaine britannique complètement oubliée qui était l'épouse de Kingsley Amis, le père de Martin Amis. Et elle a écrit toute une série, une saga, l'histoire d'une famille, le clan Cazalet. Ça commence en juillet 1937 par un grand bal qui réunit toute la famille. Il y a trois fils, il y a les épouses, il y a les enfants, il y a les gouvernantes, il y a les animaux. On pense que ça va être complètement suranné. On boit du gin tonic avec du citron vert. Mais cette femme a une sorte de sens critique et elle fait une peinture psychologique de cette famille qui s'étend sur plusieurs générations, absolument géniale. Vraiment, c'est une découverte, c'est publié au Quai Voltaire. Foncez, c'est absolument formidable.
Le conseil d'Arnaud.
Alors j'ai lu un très joli premier roman aux éditions du Seuil qui s'appelle « L'ombre de ma mère » de Claudine Londres. C'est très court, ça fait une centaine de pages. L'histoire est simple, c'est une femme qui se sent, enfin qui dit être inutile. Elle ne sait même pas coudre un bouton, dit-elle, la narratrice en tout cas.
C'est moi.
Elle a juste un petit problème, c'est que l'ombre de sa mère n'arrête pas de la suivre. Sa mère est défunte, mais il y a cette ombre qui la suit perpétuellement, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Et d'ailleurs, il y a pire, c'est que la nuit, pendant qu'elle dort, ses tantes hantent sa cuisine, bouffent tous ses biscuits secs, et en plus lui font une nouvelle coupe de cheveux absolument atroce. Elle se réveille tous les matins avec une nouvelle coupe de cheveux. Donc il faut régler ça, et elle va faire un petit voyage en France qui va l'amener en Bretagne, puis en Corse, pour se débarrasser de l'ombre de sa mère. Et c'est vraiment un livre absolument poétique, un peu absurde, un peu qui a un petit peu comme un poème de Jean Tardieu, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là dans cette écriture. C'est vraiment beau et doux et drôle.
Voilà. Le conseil pour finir de Jean-Claude.
Alors moi, c'est un livre sur un double confinement. Ça s'appelle Mictlan, c'est dans la série noire de chez Gallimard, ça s'appelle La Noire maintenant, de Sébastien Rutès. Alors Sébastien Rutès est un auteur qui est trop mal connu, mais on en est à son sixième roman. Mictlan, c'est le titre du livre, c'est en Nahuatl, qui est une langue mexicaine, ça veut dire le lieu des morts. Alors le lieu des morts, en l'occurrence, c'est inspiré d'un fait divers réel qui s'est passé au Mexique en septembre 2018. On est avec deux camionneurs qui sont enfermés dans leur camion et qui ont obligation de ne jamais s'arrêter. Et ils sont surveillés par un gouverneur et par un commandant qui leur disent « si vous vous arrêtez, vous serez mort ». Et alors pourquoi ils seraient morts? C'est qu'ils trimballent derrière eux, dans la remorque, 157 cadavres dans des sacs poubelles noirs.
C'est et charmant à lire pour l'instant.
Oui, mais je vous ai dit double confinement.
Merci Jean-Claude.
Pourquoi je vous parle de ce livre? C'est que stylistiquement, c'est un livre qui littérairement est absolument prodigieux. Voilà.
Je veux dire que
mais
personne ne vomit, personne ne rit.
Tous ces conseils, tous ces conseils, vous les retrouvez sur la page du Masque et la Plume franceinter.fr. Merci beaucoup Olivia de Lamberterie, Jean-Claude Raspien-Jas et Arnaud Vivian pour cette émission qui a été, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et réalisée de chez lui par le magicien des ondes, Xavier Pestugia. Je vous dis à dimanche prochain, cette fois pour un masque de cinéphile sur France Inter, évidemment.